L'expérience commence. C'est un monde à part, un peu à l'écart, écouté par un être particulier. Le compositeur Nicolas Frise a accepté de partager avec Manon Prigent ses bandes magnétiques de 1994. À l'époque, il est en résidence à l'hôpital de La Fontaine, à Saint-Denis. C'est une immersion. Il s'installe et navigue entre les services et les couloirs. Il enregistre le bruit des gens, des télévisions, des outils, du quotidien dans lequel une petite société se construit, avec des liens et des façons de se parler qui se réinventent. L'oreille aux portes, c'est une expérience de Manon Prigent réalisée par Annabelle Brouard.
Hassan, je ne sais pas où, Hassan.
Et moi, je sais où c'est encore. C'est chez Mademoiselle Anna. On a changé des piles.
Je ne dépêche pas. Ah ouais. Ça va ?
Quand le médecin rentre dans la chambre, il arrête la télévision, évidemment, il faut qu'il puisse parler. Donc, si vous êtes en plein milieu d'une action, c'est horrible, mais en même temps, vous êtes tellement content que le médecin arrive, et c'est tellement beaucoup plus important que l'action à la télévision. Mais quand un artiste arrive et dit « est-ce qu'on peut arrêter la télévision pour faire une prise de son ?», évidemment, l'importance n'est pas la même. Et surtout, c'est difficile de dire à la personne, on arrête la télévision parce que je voudrais entendre rien. Dès que je vois un espace disponible, dès que je vois un espace délaissé, un interstice dans la ville, je l'attrape.
Le café.
L'oreille aux portes. Dans les archives de Nicolas Frise à l'hôpital de Saint-Denis.
Lingerie, imprimerie, chirurgie infantile. Maladies infantiles, réanimation, maternité. Et un peu plus loin, j'ai les maladies infectieuses. C'est la bobine numéro 2. À 10h du matin, le 25-11-94, il y a une ambiance couloir du troisième étage. Elle dure 3 minutes 47. Ça commence à la porte de la douche, puis on avance dans le couloir. Puis j'ai coupé. Et puis à 10h15, j'ai refait une autre prise qui durait 3 minutes 40 à la porte.
Vous avez pas de papier. C'est de la chirurgie ou de la médecine ?
J'ai appris par hasard que tout le 9e étage de l'hôpital était libre. Et donc j'avais un étage d'hôpital entier à ma disposition. Ça, c'est une chose qu'on rate pas, quoi. J'arrivais avec mes micros et j'enregistrais tout en essayant de ne pas chercher à enregistrer à tout prix des choses précises, mais laisser venir, être dans l'errance comme chacun de nous dans la vie quotidienne avec son oreille et laisser venir les choses et puis les écouter et les laisser entrer en moi et donc au bout d'un moment, à force d'y être, on commence à savoir des choses, on commence à comprendre des choses et il faut lutter contre ça. Écouter les sons vraiment pour leur façon phénoménologique, c'est-à-dire pour leur contenu, leur matière, leur forme, leur durée, etc. J'essaie d'encourager les gens à écouter les sons pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils nous font. Il faut rester ignorant. Pour moi, c'était comme une espèce de... Je redevenais comme un enfant, quoi. C'est-à-dire, je mettais mon casque et je partais avec les micros. Et là, je ne savais plus rien.
Excusez-moi. Excusez-moi.
Bon, c'est moins invasif que la télévision, qu'un appareil photo. Mais les gens se demandent toujours, mais qu'est-ce qu'il est en train de me prendre, quoi.
Comment vous sentez
aujourd'hui?
Vous trouvez bien?
Bien, ouais.
Est-ce que vous avez des choses bizarres encore qui se passent?
Non. Non, c'est aussi bizarre que je voulais dire par là.
Ben, je sais pas, l'autre jour, il paraît que vous vous reconnaissiez pas bien dans un miroir.
Non, je suis pas dépanné.
Tu l'as vu là ce matin? Je trouve que vous toussez beaucoup maintenant là.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Hein? Vous venez marcher pour eux? Ouais, c'est plutôt moins bien. Vous êtes gêné là? Stop!
Stop!
Lâchez le dit.
Je suis gêné.
Je me rappelle très très bien de ce patient, il nous a marqué énormément. Oui. Un jeune qui était devenu dément à cause d'une poussée de sclérose en plaques. C'était absolument exceptionnel. Et il avait cette espèce de rire qui était totalement involontaire. Mais avec qui allait, avec toute la mimique, etc. Donc c'était difficile de ne pas le prendre au premier degré. De toujours le prendre comme un symptôme pathologique qui pouvait faire même souffrir le patient. On voyait Nicolas suivi d'un grand micro avec tout un emballage autour, passer très silencieusement dans les couloirs, qui étaient eux très bruyants d'ailleurs. Et il fallait surtout pas faire attention, il nous le disait. Hein. Et finalement c'était de ça le programme vis-à-vis de l'hôpital. L'interaction voulait être principalement la fabrique d'un atlas des sons de l'hôpital en 1994.
Alors la première campagne de prise de son, de mémoire sonore vraiment très presque scientifique, c'était l'usine Renault de Billancourt, où j'ai enregistré les 16 000 postes de travail pendant 6 mois. J'ai fait ça parce que le comité d'entreprise m'a appelé pour voyant que l'usine allait partir. Ils ont donc pensé tout de suite à faire une mémoire sonore, ce que je trouve assez éclairant. Ils auraient pu faire venir un caméraman, faire venir faire une... En fait, ils ont pensé mémoire sonore. eux, ce qu'ils souhaitaient, c'est que je fasse une création musicale avec les sons de l'usine. Et puis moi, j'ai un peu résisté à cette idée, parce que j'avais pas envie de venir avec, avec mon agra et mes chops, faire le malin devant des gens payés au SMIG dans la chaîne, et faire une création avec ça, comme ça, dans ma tour d'ivoire. Donc j'ai proposé un contre-projet, qui était de faire la mémoire sonore, d'accord, mais de faire une création avec les ouvriers, vocalement, et pas une chose électroacoustique. C'est ce qu'on a fait. Ces sons, ils sont chez moi et censés être déposés un jour, mais il faut que je m'y mette au centre des archives du monde du travail à Roubaix. Il faudrait que je verse ceux-là, il faudrait que je verse les sons de la prise de son des archives nationales. Il faudrait que je verse ceux de la RATP, ceux de la Poste de Marseille. J'ai une collection absolument énorme d'enregistrements du monde du travail. Ce que je m'attendais à entendre, c'est le silence, puisque c'est une injonction publique qu'à l'approche d'un hôpital, il faut faire silence. Ce qu'on arrive à faire à peu près dans les musées et dans les églises, mais ce qu'on ne fait pas du tout à l'hôpital. L'hôpital n'est pas du tout un lieu de silence. Il est très, 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 très sonore, très bruyant et très parlant. Les gens discutent beaucoup, ça parle tout le temps, il y a des chariots, il y a des portes, il y a des appareils, il y a des... Bon. Alors évidemment, ça c'est surtout le matin. Le matin, c'est très, 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 très bruyant. C'est comme les oiseaux, quoi. Ils s'excitent tous le matin. La nature crie le matin. L'après-midi, ça commence à se calmer un peu et la nuit, c'est complètement silencieux. Et donc, cette espèce de temporalité du son, elle est particulièrement importante à l'hôpital parce que c'est une société entière. Il y a 1000 personnes ou 2000 personnes ensemble. Et tous ces gens ensemble ont le même rythme sonore, on va dire, le même comportement sonore. Le matin, l'infirmière ferme les portes de l'armoire avec le pied. L'après-midi, elle les ferme avec la main. Et la nuit, elle les ouvre plus. J'ai entendu beaucoup de techniques aussi, beaucoup de matériel, de matériaux, d'outils et tout ça. Je pensais que les matériels étaient plus silencieux. En fait, il y a des assiettes, il y a du métal, il y a des roulettes, il y a plein de trucs. C'est très bruyant. Et j'ai entendu un lieu de travail.
Quand on est coincé dans une chambre, très vite, au bout de 2-3 jours, on sait qui va arriver parce que la table elle roule de cette façon-là et que ça fait ce bruit-là. J'avais déjà une expérience de l'hôpital parce que j'ai une maladie de longue durée. Et du coup, j'ai toujours emporté du travail à l'hôpital. Donc quand je suis hospitalisée pour une semaine parce qu'il faut qu'on fasse un bilan, etc., j'emporte mon petit piano, je travaille au casque parce que je veux pas embêter les autres patients, mais ça m'est arrivé de chanter dans ma chambre et il se passe quelque chose quand on fait ça à l'hôpital, c'est que les médecins qui venaient me voir frappaient à la porte et ils ne voulaient pas me déranger. Qu'il en reste, c'est un bon souvenir. On a vraiment rencontré des gens, quoi. Quand on est arrivé dans le lieu, tout le monde a pris ses possessions de ce qu'il avait à faire. Il y avait quelqu'un qui animait le bar, il y avait des personnes à l'accueil. Et moi, j'étais prof de chant, donc j'ai dit, je vais donner des cours de chant. Donc on m'a aménagé une petite salle avec un piano et j'ai donné des cours de chant au personnel, aux malades, à qui venait. Quand on va à l'hôpital, on est coupé de chez soi, de sa vie et de la ville. Donc j'étais contente d'être à l'hôpital, de pouvoir chanter à l'hôpital, de pouvoir faire chanter les gens à l'hôpital, de pouvoir faire du bruit et d'avoir un service de la ville qui portait de la vie en fait. Je crois que le personnel de l'hôpital ne se rend pas trop compte du bruit qu'ils font, du bruit des objets, du bruit des pas. Ils claquent les portes, ils claquent des tiroirs. C'est une façon pour eux de rester en vie. Hein. Parce que si tout est feutré, il n'y a pas de bruit du tout, c'est quand même la mort. Quoi.
C'est très difficile. Vous
aurez
des
tentations
dans votre médecin, mais gardez-la.
Vous voulez boire? Ah,
les bruits ne sont pas le bruit des choses, mais le bruit des gens. C'est-à-dire qu'on s'exprime toujours à travers ces objets et à travers ces outils. Je ne sais pas si les gens ont conscience de ça. Mais on leur dit. C'est clair que les télévisions ont ce rôle. Je voyais par exemple souvent, ils laissaient les portes ouvertes. Avec une télévision qui est assez forte. Donc c'est une façon de dire, vous ne m'entendez pas, mais je suis là. Et ça, c'est fait aussi pour cacher le fait qu'on souffre, le fait que ça s'exprime peut-être dans des bruits, dans des sons, dans des râles. Le patient n'a pas beaucoup de moyens de faire du bruit, hein, sauf crier et allumer sa télévision, quoi. Mais la télévision, c'est vraiment un outil de double existence. Enfin, j'ai remarqué d'ailleurs que des gens que j'ai vus, je suis arrivé dans la chambre le matin, ils étaient décédés. Et c'est des gens dont la télévision était très forte la veille. Et les portes ouvertes. Donc c'est des gens qui manifestaient leur vivant, quoi, leur présence, vraiment, jusqu'au dernier moment. Parce que il faut savoir une chose, c'est que quand on se promène dans les couloirs et qu'on voit des portes fermées, qu'on nous dit faut pas rentrer, c'est quelqu'un qui est très mal, qu'on est dans un service où en plus les choses se passent pas toujours bien, etc. On sait que... il y a une tension, quoi. On sait que là où on va, on sait qu'on va pas revoir forcément les gens, etc. Mais dans un service où les portes sont ouvertes, où les télévisions sont fortes, et où tout le monde parle fort et tout ça, et qu'on voit que le lendemain, il y a des gens qui sont partis pendant la nuit, ça fait réfléchir, parce qu'on on se dit pourquoi est-ce que dans les autres endroits, les choses étaient si silencieuses, si tôt, alors qu'elles auraient pas dû. C'est pas mal d'avoir des comportements vocaux très différents. D'avoir une femme de ménage qui se tait ou qui parle beaucoup, d'avoir une aide-soignante qui est très douce, avoir une infirmière qui est très excessive, vigoureuse, oui. Avoir un médecin après qui va être malheureusement parfois très silencieux, parfois énigmatique, avec des internes qui bougent pas autour de lui. Tout ça, c'est... En fait, on se fraye un chemin, le patient se fraye un chemin là-dedans et il va être plus copain avec la femme de ménage ou l'aide-soignante ou plus copain avec l'interne et il va pas aimer l'infirmière. C'est une petite société qui se construit et autour de justement de ces tons de voix, de ces façons de s'adresser, de pas s'adresser. C'est une expérience sociale. Hein.
Voilà, c'est bien. Merci. Le thermomètre, vous l'avez le thermomètre?
Avec.
Il est là sous le bras?
Oui.
Attendez, je vais le prendre. Que je le retrouve.
C'est qui est tombé?
Ah non, il est bien là. Ouais. C'est moi qui cherchais ailleurs, merci. Oui ?
36,9.
Tu peux entrer, Francine ?
Selon les services, on voit très bien tout de suite là que selon la personnalité du chef de service, surtout chef de service, plus que le médecin presque. Donc la personnalité chef de service, elle est quand même très, elle influence beaucoup. C'est comme le directeur d'une école ou le patron d'une usine ou le directeur de Radio France. Hein. Il voit pas les gens, mais il distille une culture, même une culture d'entreprise qui est très puissante, qui peut être laminante ou qui peut être extrêmement émancipatrice. Dans un hôpital, il se passe la même chose. Le directeur de l'hôpital, les chefs de service, puis les médecins, l'air de rien, ils fabriquent une culture. Et donc cette culture va être différente dans chaque service et va être différente dans chaque endroit. Et donc il y a des paysages sonores. Ces paysages sonores sont vraiment le fruit de ces relations, telles qu'elles arrivent à se déployer ou pas, en fonction de la culture d'entreprise. Et le patient, lui, par contre, il l'a subi.
Oui, bonjour. Prenez les ascenseurs face à la cafétéria, vous descendez au sous-sol. Merci. Ok, pour arracher les dents, vous allez en stomatologie, derrière vous, tout au bout du couloir sur votre droite. Consultation de quoi, madame? Derrière vous, en gastro, sur votre gauche.
On savait que des patients allaient. Des patients ou des personnels allaient aussi dans ce 9e étage réaménagé parce que d'une part c'était agréable, d'autre part pour chanter, pour participer au concert de fin de résidence dont il était en train de créer la pièce. Et en même temps il y avait une restitution de l'enquête, donc dans un deuxième temps, hein, de cette cartographie sonore. Et cette restitution, on est allé un peu religieusement dans une cabine, mais enfin un endroit un petit peu fermé pour écouter notre service. Dans mon service, il y avait un carrefour où passaient des brancards de patients, des patients, des soignants. Et à l'intérieur de ce carrefour, on avait un site de travail où on s'installait debout devant ce qu'on appelait un négatoscope à l'époque. Et on regardait les radios des patients, les scanners, etc. Et puis on était là plantés, les médecins, les internes, les externes, parlant d'un cas des patients, puis de façon tout à fait sereine. Et Nicolas enregistrait tout ça. Et puis il nous l'a fait écouter après, alors, sur des beaux Revox. Il y avait des beaux magnétophones dans le studio qu'il avait équipé au 8e étage de l'hôpital. Et on est allé écouter, on reconnaissait absolument plus rien. On ne nous entendait plus, alors qu'on était à ce moment-là dans notre cocon. Et il a suffi qu'on prenne conscience à ce moment-là de l'incroyable fond sonore dans lequel on vivait, pour trouver extrêmement compliqué, moi ça m'a perturbé pendant longtemps, encore maintenant d'ailleurs, pour trouver extrêmement compliqué de travailler dans une ambiance qui n'est pas dédiée uniquement sur le plan du son au travail qu'on fait. Et ça a été quand même une révélation que d'entendre qu'on n'entendait rien, enfin qu'on ne comprenait rien.
Baigne dedans à longueur de temps, donc on n'entend plus tellement les bruits, à part les pleurs des bébés quand même, ça on y est attentif. Autrement, c'est vrai, ça fait partie intégrante de notre journée, de notre temps, voilà, et nos oreilles sont habituées. Alors, c'est vrai que parfois on peut ne pas y faire attention. Ça fait un drôle d'effet d'entendre finalement tous ces bruits, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, hein. Qui nous submerge un peu parfois, mais voilà, ça fait une drôle d'impression. C'est, oui, on se dit, tiens, c'est bizarre, on baigne là-dedans et on les entend plus.
Quel est le son qui vous paraît le plus représentatif ou le plus marquant du service pédiatrie?
Quel son en particulier?
peut-être quand même les bips des appareils, par exemple les pousseringues, les appareils à perfusion, ces choses-là. Ou les scopes, enfin tous les appareils qu'on branche et qu'on pose sur les enfants pour surveiller un scope, un appareil qui vérifie l'oxygénation du sang, tout ça. Peut-être les appareils, oui, quand même. Parce que ça, il faut qu'on les entende, donc c'est un peu fort, des fois, les alarmes. C'était la période lorsque Nicolas est venu. C'était la période hivernale avec le problème des bronchiolites. Et dans ce cas-là, on surveille beaucoup les enfants par ces appareils. L'été, c'est plutôt genre gastro-entérite, des choses comme ça, où on surveille aussi parce qu'il faut les réhydrater et on les surveille aussi sur le plan cardiaque et tout ça. Mais c'est vrai que l'hiver, c'est peut-être plus sonore. Ça arrive dans le service qu'on s'arrête quelques minutes, boire un verre d'eau, discuter avec les collègues, voilà. Donc on faisait la même chose, mais là-haut, au 9e. Je suis puéricultrice, il y a des moments des fois un peu durs, donc ça faisait du bien de s'évader un petit peu.
Mon souvenir que j'avais, c'est que j'arrive avec mes micros, l'infirmière est assise sur une chaise, elle a toutes les couveuses dans elle, et puis il y a des bips partout. Et puis ces bips sont constants, c'est des espèces, enfin plus ou moins constants, en tout cas quand ils bougent de façon, semble-t-il, normale. Et tout d'un coup, je la vois se lever et aller toucher un bouton dans la troisième couveuse, qui semblerait être peut-être, je sais pas, le débit de l'oxygène ou quelque chose qui a à voir avec le débit du sang ou la pression artérielle, je sais pas. Et elle vient se rasseoir. Et moi, dans mes micros, j'ai rien entendu du tout. Et donc je me dis, elle a une oreille qui est une oreille sélective, mais sélective pas au sens qu'on croit, parce qu'elle a une oreille symphonique, puisqu'elle entend tout en même temps. Elle sait exactement dans quel endroit il faut aller bouger, et bouger quoi. Donc elle sait ce que chaque sonnerie, s'il y en a une qui bouge, qu'est-ce que ça signifie, et elle sait où c'est dans l'espace. Et ça, les micros sont incapables de faire ça. L'hôpital n'est pas fait que pour les patients, il est aussi fait pour le personnel. Donc c'est un équilibre entre les deux et je trouve ça important que, de toute façon, la parole prenne le pas sur les objets. Cette conclusion de dire qu'il faut que les objets soient plus discrets et plus discontinus et plus localisés et que les rapports humains soient amplifiés, elle est importante. Et c'est ça qu'il faut faire à l'hôpital, il faut que le corps parle. Et pas seulement les chariots et les seringues et les embouts d'oxygène, etc. Enfin bon. Il y a une évolution de la société en général de faire taire les objets, enfin d'arriver dans une société du silence. Et moi, elle me pose un problème parce que cette société du silence, elle encourage aussi le silence de la parole. Elle est positive parce qu'elle est, elle nous permet de nous entendre, sauf que, entre-temps, nous nous sommes tus. parce qu'on est emporté dans cette société du silence.
Des aides-soignantes à qui je demandais « Pour vous, c'est quoi l'hôpital? C'est quoi le son que vous entendez le plus ?» m'ont répondu « C'est la douleur. » J'avais déjà des centaines de bandes, des centaines d'heures de bandes et je n'avais pas encore un seul son de douleur. Parce que la douleur est trop petite, trop discrète. Je n'avais pas un seul petit son, pas un seul de ces petits appels sonores qui disent aux patients que l'on s'occupe de lui, pas une seule de ces petites choses dans le thorax, de ces petits bruits dans le ventre qui indiquent aux médecins que la maladie s'éloigne. Qu'est-ce que j'enregistrais ? Je prétendais enregistrer l'hôpital et je n'entendais même pas ce qu'entend l'infirmière qui y travaille toute l'année. Elle n'entend que cela, n'entend pas le reste, ce reste que j'avais enregistré. Mais comment faire? Comment entendre ces sons recouverts par les autres, par l'autoroute, les chariots, par le déjeuner, par les portes, par les pas, ces sons que le personnel sait pourtant entendre? Je parle ici de l'indicible, de l'inouï, enfin de quelque chose qui ne peut être oui que par les gens savants, savants dans leur pratique et leur sensibilité quotidienne, et qui n'est certainement pas perceptible par quelques micros qui passent. Journal de Nicolas Frise, Hôpital de La Fontaine, 12 décembre 1994. Considérer que dans le fait de prendre des sons, il y a déjà un acte d'interprétation.
Oui, c'était même un des titres dans un de mes livres. Documenter, c'est choisir. Faire un documentaire, c'est se placer dans une diversité de distances. C'est à chaque fois de décider dans quel contexte on le met, à quel moment il faut s'approcher, à quel moment il faut se reculer, et quelle est la relation. Et le silence que l'on produit face à l'autre, pour l'écouter, produit sa parole ou pas. Et si on n'est pas capable de faire exister le silence en tant que type de relation à l'autre, eh bien la parole ne peut pas naître. Le silence, il est, enfin, en tout cas celui de la vie quotidienne, il est celui de l'impossibilité de parler, il est celui de la douleur, il est celui de l'indicible, il est celui de l'impossibilité de formuler. Au lieu de dire tout le sonore du monde c'est de la musique, on pourrait dire partons du silence. Et alors ça serait quoi le sonore si on part du silence ? C'est ce petit tremblement infinitésimal, cette résiduelle qui contient tout ce qui s'est éteint et qui nous met face à tout ce qui peut surgir. Parce que c'est de là que ça surgit. C'est la fabrication de l'écoute. Bien les souffles, les sons de souffle. Bon là, je joue avec mes micros, hein, je me promène, je fais de la musique là pour le coup. Je fais un balancement gauche droite. Bon là, c'est des prises de son évidemment qui n'ont pas de valeur documentaire.
puisque là j'interviens beaucoup sur par la prise de son, sur ce qu'on entend. En fait, c'est pas passif de faire une prise de son, bien sûr, on est avec son micro, mais en même temps on brûle de jouer avec ce qu'on entend. En tout cas, le musicien brûle. Fixe pour écouter. Enfin, moi, j'écoutais en temps réel, mais de toute façon, en temps réel, on n'écoute pas tant que ça, parce que en même temps qu'on écoute ce qui est en train de se passer, on anticipe de ce qui pourrait se passer. Donc, on se déplace aussi sans arrêt. On va chercher. C'est comme si ça nous suffisait pas. Le preneur de son, il est jamais satisfait. Il est dans le désir de désir tout le temps. Donc, il est là en train de se déplacer, de se décaler. Et en fin de compte, il est tellement dans la projection d'enregistrer quelque chose qui va arriver qu'il n'écoute pas toujours parfaitement ce qui est en train d'arriver. Du coup, d'où l'intérêt de le réécouter. Mais c'était pas tellement pour fixer. Moi, je fixe pas pour fixer. Je fixe pour travailler. Je fixe pour réécouter. Je fixe pour rencontrer. Je fixe pour construire. Je fixe pour penser. C'est-à-dire que je ne fais plus rien de ça après. C'est vous qui faites quelque chose maintenant de ce qui a été fixé. Depuis 15 ans, ces sons sont fixés sans objet, quoi. Ils sont fixés dans mes étagères.
Déposer sur un support, inscrire, enregistrer, c'est la fascination de pouvoir retrouver le même. On accumule. Les gens font des tonnes de photographies. Voilà, ils enregistrent pas beaucoup finalement, parce que on n'a pas conscience de l'écoute, on n'a pas conscience de l'importance que ça a. Pourtant, quand je réécoute des sons de personnes qui me sont proches et qui sont décédées, il y a là un effet de présence qui est d'une puissance immense, parce que ça réveille en moi toute ma mémoire et ça me remet dans tout mon être en présence avec cette personne.
Autant tu conserves tous les sons des lieux dans lesquels tu habites, mais par contre tu n'enregistres jamais tes concerts.
Alors, je les enregistre un peu, pas toujours, mais bon, par contre je ne les diffuse pas. Ils ne sont pas publics, quoi. Ils sont privés. Parce qu'ils sont liés à un instant et que l'instant est parti et que je passe à autre chose. Moi, je le vis d'une façon un peu morbide, un concert. C'est-à-dire que le musicien est là, il joue la page de gauche, puis après, il joue la page de droite, et après, il tourne la page. Et quand il tourne la page, pour les gens, ils disent « Ah, génial, c'est la suite. » Mais pour moi, c'est la fin. Et on reviendra pas sur cette partition avec ce musicien-là, dans cette salle-là. C'est pas possible. Ça, c'est une conjoncture trop difficile. Peut-être qu'on va aller acheter le disque pour essayer de revivre quelque chose, je sais pas quoi, mais en fait, on revit pas. Hein. On vit autre chose. En fait, je suis dans une espèce de rapport au présent, qui est un rapport qui est comme le micro, en fait. C'est comme un micro, voilà. Je suis un micro qui n'a pas de magnétophone derrière. C'est-à-dire que si je ne note pas immédiatement ce que j'entends, je ne me rappellerai pas. Mais le micro, il fait pareil. Le micro est incapable de se rappeler. C'est terrible de ne pas se rappeler, hein. Et pour les proches, par exemple, parfois, ça peut être difficile. Parce que ils ont l'impression que rien ne se construit. On a été quelque part, tu te rappelles, on a été quelque part, ben, je te crois.
Quand tu es à l'hôpital et que tu as ton micro ouvert et que tu enregistres, est-ce que c'est une manière pour toi de t'assurer de pouvoir te souvenir de quelque chose dont tu ne te serais pas souvenu?
Non, c'est une manière pour moi d'être encore plus à l'intérieur. On entend beaucoup plus de choses avec un micro. Et puis on entend aussi ce qu'on veut, puisqu'on le dirige. Donc c'est une façon d'entrer.
Bien, notre ami monsieur est au journal gentiment. Oui. Il dit je me sens mieux, donc il est allé acheter le paquet de clopes au Troquet du Coin.
Ah là, je me sens. Puis j'ai bien marché hier.
Oui.
J'ai fait tout ça à pied.
Oui. Vous vous sentez nettement mieux là, vous sentez plus costaud. Hein. Vous vous sentez plus costaud.
Mais en même temps, quand vous êtes rentré, vous étiez fatigué. Hein.
Je ne vous ai pas refusé d'aller de sortir un petit peu, ma vie, je suis solide, mais moi aussi, comme madame Delmas, je vous ai mis en garde. Hein. Je vous ai dit attention. Mm-hmm. Vous commencez à vous sentir mieux, mais vous venez de très loin, d'une très très grande fatigue, d'un très fort amaigrissement. Donc c'est normal que vous soyez encore limité dans ce que vous pouvez faire. Donc il vaut peut-être mieux attendre un petit peu plus, nous faire confiance. Si on vous demande un tout petit peu plus de temps, mais que ce soit bien, plutôt que de vouloir le faire à la volonté alors que le corps n'y suit pas encore. Hein.
La force de l'enregistrement, c'est que on entend dedans la fragilité. Et la fragilité, c'est l'endroit où on est le plus en relation à l'autre. Ce que j'écoute dans la voix de l'autre, c'est l'incertitude, c'est l'hésitation, c'est l'endroit où il y a le plus de sensibles. C'est complètement inconscient, mais on va toujours, même si le téléphone et la ligne téléphonique est de mauvaise qualité, je vais écouter le petit détail qui va m'indiquer que l'autre a de la peine, ou au contraire qu'il est en train de me mentir, ou au contraire qu'il est arrogant, ou au contraire la violence de sa parole. Ce que j'entends, c'est le son avant le sens. C'est-à-dire, de quelle manière est dit ce mot. Et ce mot, selon la façon dont il est dit, déplace son sens. Le même mot peut dire de la haine ou peut dire de l'amour.
Je pense qu'il y a une élection entre les patients et les médecins sur la façon d'être. Et j'ai toujours été attentif ou sensible au fait que on est comme on est, qu'il faut être authentique, mais que ça ne conviendra jamais à tout le monde. Moi, j'étais un médecin plutôt permissif et un peu dubitatif sur la médecine. Oui, cet examen-là, ce traitement-là, peut-être oui, mais vous savez, ah là là. Ce qui a amené à, ben, vous allez en faire ce que vous voulez. Il me semble que vous avez plutôt avantage. Ah, mais... Ceci a fait que ça a sélectionné malgré tout. C'est-à-dire, il y avait des patients qui étaient des grands angoissés ou des psychorigides, ils supportaient pas, ils disaient, mais il est pas compétent ce docteur là. C'est quoi? Il me dit un machin, il a pas l'air sûr de lui. C'est quoi ce truc là? Ça va pas du tout. Donc, ok, bah, ils allaient voir ailleurs. Mais les autres, ceux qui étaient plutôt dans le doute en disant, Non, cette saloperie-là, vous croyez, je vais vraiment la prendre docteur. Et le fait que je me marrais et je leur disais, bah, écoutez, faut voir. Et qu'ils pouvaient revenir me voir éventuellement 6 mois plus tard en disant, finalement, je me suis pas décidé, mais là, je vais peut-être y repenser. Ça a donné souvent une qualité relationnelle remarquable, parce que ça permettait de s'ajuster aux temporalités de chacun. Plus les médecins se mettent sur un piédestal ou sur un truc, moins la communication peut avoir lieu. Et donc, c'est pour ça que toutes ces modalités qui remettent de l'horizontalité, c'est très précieux. Dans les expériences de vie très fortes que j'ai eues, le sida a fait que c'était donc souvent des usagers et usagères de drogue, et souvent les parents avaient 2-3 enfants qui tombaient malades en même temps, donc qui, quelquefois, ont vu mourir 1, 2, 3 enfants de la même famille. Et c'était une douleur extrême, une douleur accentuée par le fait que quelquefois ça avait été des ados en révolte, un peu des mauvais sujets pour les parents, et que c'était extrêmement douloureux pour les parents de passer de ce sale gamin, de cette sale gamine insupportable, par quel bout on va le prendre celui-là ou celle-là, à quelqu'un qui tombait malade, qui s'aggravait, et où, voilà, où dans la détresse devenait de plus en plus évidente. Donc ça a été très fort. Et encore une fois, du coup, j'ai eu cette chance de m'apercevoir que la seule réponse honorable qu'on pouvait donner, c'était la donner en équipe.
Je suis pas le seul à avoir cette difficulté de savoir si je rentre dans l'affect ou si j'y rentre pas. Le personnel est dans la même circonstance, parce que le personnel est très affecté par des personnes qui sont dans une difficulté psychologique forcément et physique forcément, parce qu'il n'y a pas de, c'est jamais d'effet, et donc il est obligé d'avoir un peu d'empathie, c'est-à-dire de comprendre que bon, face à la douleur, il faut vite faire face, et en même temps il s'en protège un peu parce qu'il peut pas non plus souffrir avec tout le monde. Donc le personnel et moi, on a les mêmes attitudes finalement, eux avec le corps et moi avec les sons. D'une dame qui disait qu'elle allait mourir, qu'elle voulait pas qu'on vous soit là, qu'elle comprenait pas pourquoi on faisait de la musique. Elle disait, mais de toute façon, j'ai pas besoin de musique. Ah oui, vous venez jouer dans ma chambre parce que je vais mourir. Elle dit, mais pas du tout, vous allez pas mourir du tout, on vient jouer pour vous. Si je sais, si vous me faites de la musique, c'est que je vais mourir. Un truc complètement dingue. C'est comme si le médecin disait, oh là là, elle va mourir, envoyez le violoncelle. Enfin, ça n'a pas de sens. Sauf que les gens, ils pensaient ça. De toute façon, les gens pensent beaucoup de choses à cause des films. Par exemple, on utilise beaucoup de musique contemporaine dans les films d'horreur, dans les films fantastiques. Parce qu'on ne peut pas utiliser une musique douce, avec tonale, avec, on ne peut pas utiliser du Bach ou du Schubert quand quelqu'un va avancer avec un couteau dans le noir. On n'y croirait jamais. Alors qu'est-ce qu'on fait? On envoie des trames, des sons qui sont très serrés, avec des demi-tons, des quarts de tons, avec des rythmes qui sont désorganisés. Et du coup, les gens associent maintenant la musique contemporaine à la panique. Et donc ça, c'est vraiment dégoûtant, quoi. On va toujours chercher la musique qui nous arrange. Et à la radio, par exemple, il y a plein de fois, on change de chaîne parce que ah, ça va pas avec le moment dans lequel on est. Mais c'est fou quand même cette façon qu'on a toujours émotive et subjective et de ne pas accepter ce qui est pour lui-même et de vouloir toujours se l'approprier et le mettre à l'intérieur de son état d'âme ou de ses situations. On n'accueille pas l'autre en fait. On s'en sert.
J'ai l'impression que des défauts qui étaient là se sont durcis. Alors, on met en avant le manque d'argent, la vision, machin, la T2A, enfin, mais ce sont des fils techniques qui peuvent avoir leur réalité, mais je crois qu'il y a un fil moins visible, mais évident, c'est que les gens pensent qu'on peut faire tout seul, voient bien qu'on ne fait pas tout seul, voit l'autre comme souvent un emmerdeur ou quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, alors que en fait c'est par le frottement mutuel que ça peut s'ajuster. Et chose qui n'arrange pas ou qui vient encore aggraver les choses, la technique est très brillante, donc on se rend bien compte que c'est compliqué de dire on va se passer de la technique et de tout ce qu'elle amène. C'est pas ça, c'est la laisser à sa juste place et pas la laisser être envahissante.
Il y a quelque chose qui est complètement lié à ça, c'est aussi le manque de personnel parfois, qui fait que on a vraiment plus le temps, et ça, on l'entend même encore beaucoup dire par les personnes qui sont en grève là en ce moment, dans les centres hospitaliers, notamment aux urgences. Le temps qu'ils peuvent consacrer humainement aux gens est tellement court, que c'est compliqué de s'occuper des gens correctement, moi je trouve. Hein. Et ils ont raison de lutter là-dessus, parce que c'est quelque chose d'important. La relation avec les gens, ça fait partie intégrale du soin. C'est normal. Quand j'ai fait mes études d'infirmière, c'était à égalité avec les soins. Il n'y avait pas ou l'un ou l'autre, mais il y avait les deux, et à peu près sur le même plan.
On nous possède avec le temps. Le temps de la consommation, le temps des idées, le temps de la publicité, le temps de la télévision, le temps de la radio. Regardez la radio qui, à l'époque, faisait des émissions de 3 heures, qui maintenant fait des émissions de 45 minutes, voire de 20 minutes, voire de 10. Ces choses qu'on fait à des vitesses pas possibles, quitte à ne plus les faire, puisqu'elles prennent trop de temps. Et en fait, il faudrait compter le nombre de choses qu'on ne fait pas parce qu'elles prennent du temps. C'est assez ambivalent l'analyse qu'on peut faire des sons continus comme ça. Parce qu'à la fois c'est rassurant, parce que ça veut dire que ça marche, ça veut dire que c'est toujours là, et si ça s'arrête ça peut être inquiétant. Donc c'est comme une sorte de prise en charge continue, quoi. On sait que c'est en route, voilà. On sait qu'on est, on est en main, quoi. Après c'est obsédant, évidemment, après c'est terrible, parce qu'il faut dormir avec ça, il faut se lever avec ça, c'est sans cesse. C'est comme toutes les choses qui sont routinières, quoi. Elles sont à la fois insupportables parce qu'elles empêchent le présent, elles ont l'air de condamner le présent à l'éternité, et en même temps, elles permettent de dire que les choses sont bien en cours, et qu'elles se déroulent, et qu'on est en sécurité. Enfin, notre oreille, elle se promène toujours, hein. Elle est errante. L'oreille, à un moment donné, elle entend quelque chose, elle se focalise dessus, elle n'entend plus rien d'autre. Elle l'écoute avec attention, puis elle s'enlace, ou ça l'exacerbe, et puis elle s'en va ailleurs. Ou au contraire, elle se fond dedans, s'abandonne, elle s'envole, elle s'endort.
L'oreille aux portes, un documentaire de Manon Prigent, réalisé par Annabelle Brouard. Avec les sons d'archives issus de la résidence de création de Nicolas Frise à l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis en 1994, et Nicolas Frise, compositeur, Thomas de Brouckère, chef du service neurologie, Brigitte Mazère, professeur de chant, Dominique Franc, puéricultrice, Daniel Dehay, preneur de son et auteur, et Denis Méchali, chef du service maladies infectieuses. Numérisation des bandes magnétiques, Tiaga Ruben, Tiaga Raja, au studio du Temps. Prise de son, Cédric Châtelut. Mixage, Bernard Laniel. Coordination, Aurélie Charon et Inès Duperron. Merci aux musiques de la Boulangère, à l'hôpital de La Fontaine et au Conservatoire de musique de Saint-Denis.
Un café au lait ? Café noir ? Vous voulez du pain avec de la confiture ? Bonjour, monsieur Tournemaine.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, ma grande.
Ça va ?
Ouais.
On se lève pour le café ?
Oui, mon petit.
Dimanche prochain dans l'expérience, la productrice Kay Mortley s'est plongé, comme départ pour une histoire, dans les listes des explorateurs qui partent avec peu de choses, mais qui pensent minutieusement à ce qu'ils vont emporter. En attendant, il sera bientôt minuit, vous écoutez France Culture, l'expérience et la création, ça continue.